au carnet de l'économie cette semaine, deux philosophes qui s'intéressent à l'économie, David Robichaud, Patrick Turmel, tous deux viennent du Canada, université respectivement d'Ottawa et université Laval, avec un titre, la juste part qu'il faut citer, le repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains. Vous partez de la complexité du grille-pain parce que vous citez le cas d'une personne qui a tenté de démonter un grille-pain, puis de le remonter, qui s'est rendu compte à quel point c'était compliqué et qui en plus a dépensé beaucoup d'argent, voilà. 10 dollars au départ et beaucoup plus à l'arrivée. Que voulez-vous dire?
L'idée, c'est de simplement démontrer que la personne qui tenterait de construire un grille-pain à partir de zéro réaliserait assez rapidement qu'elle dépend non seulement de tout un ensemble de connaissances auxquelles elle a déjà accès, d'une éducation qui lui permet d'avoir accès à ses connaissances, de tout un héritage civilisationnel qui nous a notamment offert la découverte de l'électricité et sa maîtrise. Donc, évidemment, tout un contexte social et institutionnel qui permet de créer le grille-pain, mais également de l'échanger dans le marché contre de l'argent.
Et ce que vous démontrez au fond, c'est que la production de richesse n'est pas une affaire individuelle. Et bien sûr, si vous le dénoncez, c'est parce que vous avez le sentiment que c'est l'idée qui s'impose aujourd'hui dans nos sociétés développées, au Canada comme en France.
Voilà, donc cette image du grille-pain nous amène à développer cette thèse, qui est la thèse centrale du livre, hein, cette idée selon laquelle la production de richesse n'est pas une affaire individuelle, mais une affaire collective. Et ça nous permet de remettre en question un certain nombre de préjugés que l'on retrouve dans l'espace public, dans le discours public, des préjugés comme celui selon lequel les personnes moins favorisées qui ne tireraient pas leur épingle du jeu dans le marché, par exemple, les personnes les plus pauvres, dépendraient de la société, seraient des contribuables négatifs, alors que les personnes les plus riches seraient des contribuables positifs et mériteraient entièrement leur revenu, leur succès socio-économique.
Grâce à leur contribution considérée comme exceptionnelle, voilà, à la société. Ça veut dire que toute richesse, donc, serait le produit de la coopération sociale.
Exactement. C'est la thèse que nous suggérons. Et si ce n'est pas très controversé dans le cas du grille-pain, nous essayons d'aller un peu plus loin et de démontrer, par exemple, que la même logique s'applique à des milieux où l'on a tendance à considérer que le talent, le mérite est le facteur principal déterminant le succès socio-économique ou le succès de l'individu, alors que ce n'est pas le cas. Donc, des exemples comme le milieu des affaires ou le sport professionnel.
Oui, en bon philosophe, vous faites beaucoup de références à de grands aînés. Vous parlez notamment de Hume. Vous parlez de Hobbes. Est-ce qu'on peut prendre un exemple ou deux, justement, qui s'appuierait sur ce que vous êtes en train de nous dire, David Robichaud?
Oui, tout à fait. En fait, les défenseurs du libéralisme ont eu tendance à avoir recours à l'idée de Locke, selon laquelle, à l'état
c'est
de nature,
vrai, David Locke aussi.
Si on fait abstraction de l'état, ce qu'on a, c'est des individus. Ce sont des individus totalement libres, atomisés, qui ont comme premier réflexe de se respecter les uns les autres et d'entrer dans des échanges efficaces et améliorant leur situation. Or, si on regarde plutôt du côté de Hobbes présente un portrait qui est assez différent, avec des individus qui ont plutôt tendance à entrer en conflit. Donc, à partir du moment où on rejette l'idée qu'on aurait un naturel qui nous porterait à l'accord et à l'échange, et qu'on reconnaît plutôt qu'on peut, dans certains cas, entrer en conflit, on justifie d'une certaine façon des structures institutionnelles qui vont être nécessaires pour pouvoir permettre le marché. Et donc, le marché ne serait pas une institution naturelle qui émergerait par défaut, mais plutôt une création humaine qu'il faut maintenir et qu'il faut réguler au moyen de normes.
Patrick Turmel, vous voulez ajouter autre chose?
Donc l'idée ici, c'est simplement de dire que le droit de propriété comme le marché sont des institutions sociales.
Merci à tous les deux. Ben, on va poursuivre demain, parce que demain, vous allez nous démontrer ce qu'est l'utopie capitaliste en vous appuyant sur l'exemple de l'homo crusoe economicus. On n'en dit pas plus, c'est les carnets de l'économie. Merci David Robichaud, Patrick Turmel. C'est paru au Lien qui libère, la juste part.